réveil avec Europe 1, il est 6h58. Je vous donne rendez-vous demain pour le 5-7. Bonjour Mathieu Béliard.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Europe 1. On est mercredi 12 mai 2021. Le monde a changé. On va vous le raconter et c'est vrai qu'on parle beaucoup du déconfinement, de la reprise dans les jours à venir. J'ai deux mots à vous dire, moi. Offre et demande ce matin. L'offre et la demande, la PlayStation 5. La pénurie pourrait durer encore un an. Explication dans un tout petit instant. Mais vous entendrez aussi ce matin le PDG de l'alliance Renault-Nissan. Ce sera dans le journal de 8h, Jean-Dominique Senard. Le prix des voitures va augmenter. Alors ça, c'est la nouvelle mauvaise nouvelle de la matinée. Le prix des voitures va augmenter avec le retour de la demande partout en même temps. Le prix des matières premières s'envole. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ce matin, entre autres, bien sûr. Laurent Cabrol est avec nous à 6h59. C'est l'heure de la météo. Bonjour, ouais. Laurent.
Bonjour Mathieu. On va essayer d'évoquer aussi la météo. Mais malheureusement, ce que j'ai à vous dire, c'est quand même assez compliqué. Donc j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Sachez simplement que sur le littoral atlantique, les pluies viennent d'arriver parce qu'il s'agit d'une nouvelle perturbation. Elle va traverser la France en courant de la journée. Hier, nous en avons une. Aujourd'hui, une autre. Demain, encore une autre, et ainsi de suite. Malheureusement, la grande tendance pour le congé de l'Ascension ne change pas. Ce sera tantôt des périodes de soleil, mais assez courtes, et tantôt des averses, des orages et des petites pluies ou des grosses pluies. Voilà, le programme n'est pas folichon. Il fera entre 16 et 19 degrés cet après-midi en France.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1. Un très bon réveil à toutes et à tous. On est ensemble et on écoute le monde changer. Il est 7.
Nous, on voulait que la société, que le système, que tout le monde reconnaisse que c'était un meurtre, que notre fils avait été victime. C'est fait.
La satisfaction du papa d'Arthur Noyer cette nuit. Nordal Lelandais a été reconnu coupable du meurtre de son fils. Il est condamné à 20 ans de prison. La préparation du déconfinement dans les commerces et au gouvernement, les autorités veulent jouer la vigilance pour les ponts et les vacances. Des centres de tests pourraient être installés dans les gares et sur les aires d'autoroute. Dans ce journal aussi, la mise en examen du tueur présumé du policier d'Avignon et les allocations familiales à la française dont pourrait s'inspirer la Chine pour relancer la natalité qui atteint un plus bas historique. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouette.
La gauche au pouvoir au Danemark fait tout pour dissuader les migrants. Un projet de loi pour envoyer au diable les demandeurs d'asile. Ils seront confiés au Rwanda.
L'édito sport, Virginie Fulpin. Et puis avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern, notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, d'où vient cette expression « tailler des croupières » ?
La réponse dans une vingtaine de minutes. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Debout, les mains jointes, Nordal Lelandais, impassible hier soir à l'annonce du verdict. 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers. L'ancien maître chien est condamné pour le meurtre d'Arthur Noyer.
Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
Vous étiez hier soir à la cour d'assises de Chambéry qui s'est attachée à se prononcer sur cette seule affaire.
Oui, le président s'y était engagé dès le premier jour d'audience. Il avait assuré à Nordal Lelandais qu'il serait jugé comme tous les accusés avec les mêmes droits, en faisant abstraction du contexte médiatique. Loin du fantasme d'un tueur en série, Nordal Lelandais a donc été jugé comme un homme ordinaire. Sa version des faits, celle d'une bagarre qui a mal tourné, n'a tout simplement pas convaincu les jurés. La cour d'assises a retenu le meurtre comme l'espérait la famille d'Arthur Noyer. Et Alain Jakubowicz, l'avocat de Nordal Lelandais, l'a annoncé dès hier soir, son client ne fera pas appel.
On voulait simplement qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait et uniquement ce qu'il a fait. Refermons ce dossier, ayons une pensée pour Arthur Noyer, ce jeune homme qui n'aurait pas dû mourir et qui malheureusement est mort.
C'est une autre bataille judiciaire qui attend déjà Nordal Lelandais, mis en examen pour le meurtre de Maëlys en août 2017. Le procès devrait se tenir l'an prochain à Grenoble et cette fois-ci, l'ancien maître chien risque la prison à perpétuité.
Marion Dubreuil à Chambéry pour Europe 1 et Didier Noyer, le père de la victime de Nordal Lelandais, s'est dit globalement satisfait de ce verdict.
L'actualité ce matin se joue aussi en Israël, entre tirs de roquettes et raids israéliens.
L'armée israélienne assure avoir procéder à ses plus importantes frappes sur la bande de Gaza depuis 7 ans et ce n'est pas fini, a prévenu dès hier le ministre de la Défense, Benny Gantz.
L'armée a agi en force ces dernières 24 heures. Au cours de centaines de frappes, les sites de production d'armes, les tunnels et les tours dont se servaient les organisations terroristes se sont effondrés. Et ils continueront à s'effondrer. Il y a encore beaucoup de cibles dans le viseur. Ce n'est que le début.
La détermination du ministre de la Défense israélien, alors qu'à Tel Aviv n'ont cessé de résonner cette nuit les sirènes à l'approche de missiles tirés par le Hamas et le djihad islamique qui revendiquent 300 tirs ces dernières heures. Le chef du Hamas qui promet de continuer à répliquer.
Si Israël veut une escalade, la résistance est prête. Et si Israël veut arrêter, nous sommes prêts aussi. S'ils veulent retirer leurs mains de Jérusalem, nous sommes prêts.
Les de son côté, l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient s'inquiète d'une guerre à grande échelle.
Notez le rendez-vous à 8h15 ce matin à Daniel Saada, ambassadeur d'Israël en France. 7h04 sur Europe 1, la suite du journal Marion Calais avec des commerçants qui s'activent à l'approche de la réouverture dans tout juste une semaine.
Et si les bars et les restaurants s'attellent à installer leurs terrasses, les personnels se préparent aussi. Après 7 mois d'arrêt, l'heure pour certains, même parmi les plus aguerris, est à la remise à niveau. Reportage dans un centre de formation parisien avec ce stage « Manager en temps difficile ». Carole Ferry pour Europe 1.
Une réponse un peu sèche à un client, la bouteille de vin posée au hasard sur la table. Les 10 managers présents savent que les erreurs de personnel seront nombreuses le jour J. Parmi les stagiaires, Serge Bali, il est co-directeur du Café de Flore, 30 ans d'expérience et pourtant il a besoin de se préparer à cette situation qu'il qualifie d'inédite.
On a des gens qui vont arriver, qui n'ont pas tenu de plateau pendant 7 mois, qui vont reprendre des plateaux qui font 10, 12, 14, 16 kilos. On va se retrouver d'un isolement quasi total, pour certains, à se reconfronter aux clients, à la hiérarchie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être assuré, j'ai besoin d'avoir les clés sur la manière d'aborder cette reprise.
Premier conseil du formateur, Denis Barral, appeler chaque membre de l'équipe avant le redémarrage et revoir complètement son logiciel de management.
Si vous voulez, dans la restauration, la tradition, c'est d'être très directif, de donner des ordres en permanence. Alors là, il va falloir avoir un management beaucoup plus participatif. Vous allez accompagner le collaborateur, lui faire confiance, et même quand il commet des erreurs.
Sans quoi, le risque, c'est d'avoir du personnel qui craque, des arrêts maladie à répétition, et au final de rater sa reprise.
Être prêt, donc anticiper, c'est aussi ce que veut l'exécutif, dont la stratégie de déconfinement jugée trop rapide, trop précoce, est critiquée par certains médecins et épidémiologistes.
D'où le caractère progressif des réouvertures défendues par les autorités, qui misent aussi sur le suivi des contaminations et les gestes barrières pour éviter tout rebond épidémique, Victor Dolande.
Oui, en étalant dans le temps les règles de réouverture, le gouvernement entend continuer à faire baisser les cas et sensibiliser les Français sur le maintien des gestes barrières. Bien réussir le déconfinement, c'est accepter de ne pas brûler les étapes, me confie un proche du ministre de la Santé, Olivier Véran. En parallèle de la campagne de vaccination, le dispositif de test va être renforcé. Selon nos informations, un maillage très fin de centres éphémères de tests va être mis en place pendant les ponts et les vacances, sur des aires d'autoroute, dans des gares. Ce déconfinement progressif, l'épidémiologiste Pascal Crépé le juge pertinent, mais il regrette quand même qu'on n'insiste pas davantage sur l'aération.
C'est très clairement une mesure qui permet de limiter le risque de cluster, de cas groupés, notamment dans les endroits confinés tels que les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres, etc. Or, on n'entend pas de recommandations spécifiques sur les niveaux d'aération, de ventilation qui seraient nécessaires.
Un autre oubli, selon lui, il faut davantage inciter les Français à télécharger l'application Tous Anti-Covid pour mieux remonter les chaînes de contamination. Mais une chose est sûre, si on doit comparer les deux phases de déconfinement, on sera mieux armé que l'année dernière. À la même époque, on avait très peu de tests, mais surtout, on n'avait pas de masque ni de vaccin.
Et en vue de la sortie de crise, le gouvernement a trébuché hier à l'Assemblée. Son allié, le Modem, a refusé dans un premier temps le pass sanitaire. Il a fallu une seconde délibération et une concession de l'exécutif sur la période de restriction des libertés pour que le texte soit finalement adopté un peu plus tard dans la nuit.
Des voitures bientôt plus chères. La confidence du patron de Renault hier sur Europe 1 en cause le coût des matières premières et les pénuries de certains composants.
Et on verra dans le journal de 8 heures que de nombreux autres secteurs pourraient afficher des prix à la hausse en attendant ces pénuries. Elles ont aussi des répercussions dans le monde de la tech. Et Sony fait savoir que la production de sa dernière PlayStation va rester limitée pendant encore un an, Clément Le Saffre.
Et oui, les joueurs vont devoir prendre leur mal en patience. Hein. Même si nous pouvions augmenter la production, nous n'arriverons pas à répondre à la demande cette année. C'est la confession faite par le directeur financier de Sony auprès de quelques analystes. Première raison à cela, la pénurie de composants électroniques comme les constructeurs automobiles. Les fabricants de consoles de jeux vidéo manquent de semi-conducteurs. Avec la reprise de l'économie mondiale, il y a embouteillage dans les usines en Asie. Et tout le monde ne peut pas être servi en même temps, selon Aurélien Dutoit, analyste chez Euler Hermes.
La demande en semi-conducteurs est particulièrement volatile, mais l'offre, elle, est particulièrement inerte. La fabrication d'une puce comprend des centaines de process mécaniques et chimiques successifs. Entre le moment où vous décidez d'une augmentation de production et le moment où cette augmentation se matérialise, il peut s'écouler un ou plusieurs trimestres.
L'autre raison qui explique le manque de PS5, c'est l'explosion de la demande. Sony a écoulé 8 millions d'exemplaires de sa nouvelle console en 6 mois, soit autant que pour le lancement de la PS4 en 2013, preuve que la production reste malgré tout élevée. Sauf qu'en 8 ans, le nombre de joueurs a augmenté et encore plus cette année avec le Covid.
En précision, signé Clément Le Saffre pour Europe 1.
Il a passé sa première nuit en prison. La mise en examen hier soir du tueur présumé du policier d'Avignon.
Le jeune homme de 19 ans poursuivi pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique malgré ses dénégations après 48 heures de garde à vue. Guillaume Bié.
Jusqu'au bout, il a nié les faits en garde à vue. Du haut de ses 19 ans, le meurtrier présumé a soutenu face aux enquêteurs qu'il n'était pas sur le lieu du drame. Pourtant, les policiers ont accumulé les indices à son encontre et lors d'un tapissage, le jeune suspect a été formellement reconnu par le collègue d'Éric Masson comme étant le tireur. L'autre jeune homme arrêté, 20 ans, soupçonné d'être complice, n'a pas eu la même attitude en garde à vue. Il a bien reconnu qu'il était présent lors du contrôle, mais qu'il aurait pris peur et se serait enfui sans assister au tir mortel sur le brigadier. Quant à la sœur du tireur présumé, elle avait été remise en liberté, tout comme le chauffeur qui conduisait les deux suspects vers l'Espagne au moment de leur arrestation. Mis en examen, les deux hommes ont déjà été condamnés pour des affaires de violence ou de petites trafic de drogue. Cette fois, il risque la réclusion criminelle à perpétuité.
Guillaume Bié, dans les Cévennes, 200 gendarmes mobilisés depuis hier pour tenter de retrouver l'homme qui a abattu son patron et un collègue. Hier matin, il pourrait être lourdement armé, selon le procureur.
C'est le pays le plus peuplé au monde. Mais selon un rapport dévoilé hier, la croissance de la population chinoise n'a jamais été aussi faible. Le pays vieillit. Et pour cause, les jeunes Chinois sont de plus en plus nombreux à ne pas vouloir ni enfants ni vie maritale. Reportage ce matin à Pékin. Sébastien Lebelzik pour Europe 1.
Tranquillement installé sur son canapé devant la télévision, Li, 30 ans, défend ce qu'elle appelle un mode de vie, le célibat.
On a plus de liberté quand on vit toute seule, on peut faire ce qu'on veut, manger et dormir quand on veut, je suis toute seule à décider, et puis en plus la vie coûte beaucoup moins cher.
Elle fait partie des 240 millions de célibataires chinois, de plus en plus nombreux dans les grandes villes. Ils sont à l'origine de l'effondrement de la natalité, moins 20% ces deux dernières années. Malgré la fin de la politique de l'enfant unique en 2016, même les couples mariés font moins d'enfants, comme l'explique Madame Liu.
Pour mon logement, c'est très cher. Il faut que je rembourse beaucoup d'argent à la banque. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne veulent pas avoir un deuxième enfant.
Un changement démographique qui inquiète les autorités, incapables de financer les pensions de retraite. James Liang, démographe.
Si on ne fait rien, la natalité va continuer à baisser à un niveau très bas. L'un des plus bas du monde. C'est clairement une situation qui n'est pas tenable.
La Chine réfléchit donc à un système d'allocation familiale à la française et un report de l'âge de départ à la retraite. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
La Chine, désormais premier développeur de projets d'énergie renouvelable, alors qu'en France, certains freins se dressent sur le chemin de ces projets. D'ailleurs, aujourd'hui, la ministre de la Transition écologique et le ministre de l'Agriculture vont être auditionnés par la mission d'information méthanisation du Sénat. Alors que les contestations locales contre ces projets de méthaniseurs se multiplient, ces méthaniseurs sous lesquels des résidus agricoles fermentent et produisent du gaz. Illustration à Grisel dans le Gâtinais, cas d'école que nous raconte Virginie Salmen.
Oui, c'est une plaine agricole encore très préservée, un petit village de 800 habitants.
Là, il y a un corridor protégé où on voit passer les chevreuils.
Magali Cano, propriétaire d'une ferme à 100 mètres d'un des deux méthaniseurs.
Nous avons les hirondelles qui nichent encore, les grenouilles dans la mare, les chauves-souris à la tombée de la nuit. Donc pour l'instant, tout est extraordinaire pour nous. Et voilà, toute cette partie-là, 8 hectares pris à l'agriculture pour mettre une usine à gaz.
Pour alimenter ces méthaniseurs, il faudra des dizaines de tonnes de déchets végétaux chaque jour, soit un camion toutes les 7 minutes selon le calcul des habitants, ce que conteste Guillaume Perdereau, agriculteur à l'origine d'un des projets.
La vie des gens ne va pas changer. Ce n'est pas des camions qui vont tourner, c'est des agriculteurs avec leurs remorques et leurs tracteurs.
Les habitants craignent aussi les risques d'incendie, d'explosion ou de pollution des sols. Pour le maire qui les soutient, Claude Madec-Clay, on n'en est plus du tout à une méthanisation agricole.
C'est une méthanisation purement industrielle. Quand on est à 8 hectares de superficie, 8 millions d'investissements, où est la méthanisation agricole?
Pour les habitants, ce sont des céréaliers qui cèdent à la promesse d'un nouvel or vert. Pour les agriculteurs, au contraire, c'est l'avenir de la profession, une façon de diversifier leurs revenus.
Un reportage dans le Loiret de Virginie Salmen.
Et Marion Calais, tiens, je voulais vous faire écouter ce son. Ça nous vient, alors c'était hier soir, hein, cette nuit, ça nous vient de Londres, écoutez.
Tell you how grateful we are to be here tonight for the first live event back in the O2 Arena.
Le 2 Arena, le premier événement live, 4000 personnes pour les Brit Awards. Les victoires de la musique en Angleterre, évidemment. Cérémonie, 4000 personnes, vous vous rendez compte?
Sans masque.
On se prend à rêver un petit peu. Ça va venir, ça va venir. Voilà, c'est juste un petit avant-goût du monde d'après qu'on vous donne ce matin. Merci Marion Calais. C'était le journal de 7h. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Quelles sont les motivations des militaires qui signent ces tribunes qui font l'actualité? Ils dénoncent le délitement de la société. Quelles propositions en face? Et oui ou non sont-ils téléguidés, d'ailleurs manipulés par l'extrême droite? Le Centre de recherche politique de Sciences Po révèle une étude sur le vote des policiers et militaires. 60% d'entre eux prévoient de voter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Ce matin, je reçois en direct un signataire de la première tribune, le général Emmanuel de Richouf. Le tête-à-tête Europe Matin, c'est à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et Danone aura bientôt un nouveau patron après le limogeage soudain d'Emmanuel Faber il y a quelques semaines. Et ce sera à nouveau un homme.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est l'un des fleurons du CAC 40. Depuis la mi-mars et le débarquement soudain de son patron, Danone se cherche un nouveau dirigeant. Et c'est pratiquement chose faite.
Oui, et alors, ironie de l'histoire, alors que les députés votent aujourd'hui même une loi pour féminiser les organes dirigeants des entreprises, eh bien, le conseil d'administration s'apprête à choisir un homme. Sauf coup de théâtre, en effet, le successeur d'Emmanuel Faber, ce patron atypique, à forte personnalité, s'appelle Antoine de Saint-Affrique. Il faudra donc attendre encore un peu avant qu'une deuxième femme prenne la tête d'un groupe du CAC 40 après Catherine McGregor qui dirige Engie.
Danone ne pouvait pas rester longtemps sans tête.
Non, le groupe a été secoué en effet par le psychodrame qui s'est soldé par le limogeage d'Emmanuel Faber. Il s'était longuement confié à nous d'ailleurs il y a quelques jours pour dénoncer le climat d'entre-soi qui prévaut selon lui à la tête de beaucoup de grands groupes. Et il s'étonnait d'avoir été débarqué alors que sa stratégie n'était pas en cause. Elle a même été confirmée depuis. Son successeur devra d'ailleurs reprendre la même feuille de route et mettre en œuvre le plan Local First qui vise, comme son nom l'indique, à donner plus d'autonomie aux managers sur le terrain et accessoirement à dégager 1 milliard d'euros d'économies.
Oui, accessoirement. L'un des défis de Danone, on va se projeter, l'un des défis de Danone, c'est de redresser sa rentabilité.
Exactement, Danone, vous savez, c'est certes un fleuron français, plus de 100 000 employés, 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est aussi une société qui est complètement opéable. Et la seule manière de se protéger autant que faire se peut d'une prise de contrôle hostile, eh bien c'est d'être rentable et même plus rentable que la moyenne du secteur. Le jour où vous ne l'êtes plus, les prédateurs commencent à tourner autour. Or, aujourd'hui, Danone est à la traîne et c'est aussi ce qui a poussé le conseil d'administration à débarquer Emmanuel Faber. Le défi du nouveau patron, qui a fait une très grande partie de sa carrière chez Unilever, c'est un spécialiste du marketing, eh bien ce sera donc de redresser la rentabilité. Il n'est pas un inconnu chez Danone, il y a travaillé 3 ans, il dirige actuellement le groupe Barry Calbo, qui est le leader mondial du cacao, c'est basé en Suisse. Danone, c'est une autre culture, ce sont des valeurs fortes, une entreprise qui est fière de sa raison d'être, de son engagement pour l'agriculture durable et de son indépendance capitalistique qui n'est jamais garantie.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h19 et nous retrouvons Vincent Hervouet de Son Regard International. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Au Danemark, les députés s'apprêtent à voter une loi pour envoyer en Afrique les demandeurs d'asile.
Alors, sur le papier, c'est tout simple. Un migrant sonne à la porte à Copenhague, on prend ses empreintes, on ouvre un dossier et on le met dans l'avion. Direction le Rwanda, l'Érythrée, l'Égypte, on ne sait pas encore. Négociation en cours. Si l'asile est accordé, le réfugié reste là-bas. S'il est débouté, eh bien au Rwandais, égyptien, érythréen, de l'expulser. Dans tous les cas, il ne remet jamais les pieds au Danemark. Idem pour les mineurs isolés, seule exception, les malades qui ne peuvent être soignés ailleurs. Les Danois relèvent le pont-levis, mais ils ne veulent pas être pris pour des sauvages.
C'est un gouvernement de gauche au Danemark.
Oui, la gauche est revenue au pouvoir il y a 2 ans avec une priorité, la lutte contre le changement climatique, et une urgence, la lutte contre l'immigration. Pourquoi ? Eh bien, pour sauver l'État-providence et pour ne pas laisser à l'extrême droite la préoccupation majeure de l'électorat populaire. Le ministre de l'Immigration et de l'Intégration a milité au Parti communiste, à l'Alliance Rouge-Verte. Il a dirigé le Parti populaire socialiste avant de rallier les sociaux-démocrates. Mais ce qu'on retient en général de son CV, c'est qu'il est fils de réfugié. Mathias Tesfaye a 40 ans, son prénom est danois et son nom éthiopien. À ceux qui s'indignent, il répond que cette politique dissuasive limitera le nombre des migrants réduits en esclavage par les passeurs et qui se noient en Méditerranée.
C'est le modèle australien, en fait, sous-traiter la gestion des migrants à un pays tiers à grands frais.
Alors, un migrant en centre de rétention coûte 40 000 euros par an au gouvernement danois. Confier la tâche au général Kagame en finançant la transition écologique au Rwanda, eh bien, c'est le double effet qui se coule. En réalité, il y a eu l'an dernier seulement 1500 demandes d'asile à Copenhague, le chiffre le plus bas depuis 30 ans, car les Danois ne savent plus quoi inventer pour dissuader les migrants. Depuis un mois, coup sur coup, ils ont décidé de renvoyer les exilés syriens chez eux, puisque la situation en Syrie s'améliore, de durcir les règles de naturalisation. Un condamné, même avec sursis, ne pourra jamais devenir Danois. De limiter à 30% par quartier le nombre de résidents d'origine non occidentale, et puis de durcir le financement des mosquées, histoire d'empêcher la Turquie ou le Qatar de monter les musulmans contre le Danemark. Qu'elle vote à droite ou à gauche, la petite sirène de Copenhague n'est pas prête de porter le burkini.
Vincent Hervouet, le regard international, tous les matins sur Europe 1. Il est 7h21 et dans un tout petit instant, l'édito sport, Virginie Fulpin.
Les trophées UNFP à la fin d'une saison de Ligue 1, c'est un peu comme les Césars, on récompense les meilleurs. Et Neymar n'a rien à faire dans la liste des nommés.
Et juste après notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, l'édito sport, Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors chaque année, on a parlé des Brit Awards à la fin du journal de 7h. Comme les Césars, il y a les trophées UNFP qui récompensent entre autres le meilleur joueur de Ligue 1 de la saison. Alors il y a 5 nommés après un vote de tous les footballeurs du championnat. Et pour vous, Neymar n'a strictement rien à faire parmi eux.
En fait, ça n'est pas le trophée UNFP, c'est le jeu Chercher l'intrus. Allez, vous jouez avec moi. Voilà les 5 nommés. Le Parisien Mbappé, le Lyonnais Depay, le Monégasque Ben Yedder, le Lillois Yilmaz et donc Neymar. Je crois que j'ai trouvé. L'intrus, c'est le Brésilien. Bon, il faut dire que ce n'était pas compliqué. Franchement, qu'est-ce qu'il fait dans cette liste ? Il a joué en tout et pour tout 16 matchs en Ligue 1 cette saison, c'est-à-dire moins de la moitié. Il a marqué 8 petits buts, dont 4 sur pénalty. Et il a écopé de 2 cartons rouges et de 5 journées de suspension. On ne va peut-être pas lui remettre un trophée pour ces prestations-là quand même. Les joueurs, puisque ce sont eux qui votent, doivent se respecter un petit peu eux-mêmes, respecter le football et notre bonne vieille Ligue 1. Ou alors ça veut dire qu'ils ne regardent pas vraiment les matchs. Neymar n'a absolument pas pesé sur le championnat de France cette saison. Ou alors, s'il a pesé sur quelque chose, c'est sur les résultats de son équipe. Et si le Paris Saint-Germain n'est pas champion de France à la fin, il aura une responsabilité. Là, d'accord. Mais le voir
ça
parmi...
c'est dit.
Oui, c'est pas encore fait, cela dit. Mais le voir là, parmi les meilleurs joueurs de la saison, c'est ridicule. J'ai absolument rien contre lui en soi, je préfère préciser. D'ailleurs, il y est pour rien, lui, s'il se retrouve nommé. C'est juste que cette saison, il mérite aucune distinction.
Vous exagérez, Virginie. Les joueurs, ils l'ont sans doute désigné pour son talent hors norme, c'est tout.
C'est tout le problème de ce genre de récompense individuelle. Ce trophée est censé désigner les meilleurs joueurs de la saison. Il n'est pas là pour mettre en avant un CV qui brille ou un talent intrinsèque. Sinon, puisque c'est Neymar et qu'il vient de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, ça veut dire qu'on est sûr de le retrouver parmi les meilleurs tous les ans, quoi qu'il fasse. Toute proportion gardée, vous savez, on a un peu le même problème avec le Ballon d'Or. Tant qu'ils seront en activité, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont toutes les chances d'être sur le podium. Pour leur nom, pour tout ce qu'ils ont apporté au football, pour leur talent, effectivement. Là, avec Neymar, on a l'impression qu'il joue le rôle de la vitrine de la Ligue 1. Ça fait bien de le retrouver en haut de l'affiche. Sauf que c'est sur le terrain qu'on l'attend et qu'il n'y a pas joué un rôle essentiel cette saison, loin de là. Donc là, il fait partie de la liste des nommés. On peut encore éviter le pire, que les joueurs de Ligue 1 ne votent pas pour Neymar, s'il vous plaît.
Merci Virginie Fulpin, et je repensais aussi à l'actualité du foot, Montpellier-PSG ce soir, puisque vous parliez de Neymar, demi-finale de Coupe de France, le spectre de la saison blanche hein, pour le PSG, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la matinale. Virginie Fulpin, merci beaucoup, c'était l'édito sport, et on retrouve Stéphane Bern à présent pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour Virginie. Alors c'est pour vous Virginie que j'ai imaginé cette expression délicieusement surannée, un peu ringarde aussi, tailler des croupières.
Le pire, hein, c'est que je la connais même pas, cette expression.
Non, pourtant.
C'est vrai.
Ah, on va l'explorer ensemble. Alors oui, je vous confirme, on n'utilise pas tous les jours hein, cette expression. Mais bon, dans certains films d'Audiard, on doit bien la retrouver, tailler des croupières. C'est quand on cause du tort à quelqu'un, des torts.
Oui, bon, je ne vous sens pas homme, Mathieu, à tailler beaucoup. Mais je vais quand même vous donner l'origine de cette expression. Celles et ceux qui montent régulièrement à cheval connaissent ce mot. Croupière, c'est la longe qui est reliée à la selle du cheval. Elle fait partie du harnais. Elle passe derrière la queue de l'animal tout en étant fixée au bas. Le bat, qui s'écrit avec un accent circonflexe et un T, est le dispositif qui permet de porter des charges pour un cheval ou un âne. Ça a d'ailleurs donné l'expression « un âne batté ». Ou même, c'est là que le bas blesse. Hein, c'est pas le bas BAS en lingerie féminine.
Non, mais on en apprend sur plein d'expressions ce matin.
Oui. Tailler des croupières au XVIIe siècle, pendant les combats entre cavaliers, c'est quand d'un coup d'épée ou de lance, on coupait la croupière et ça provoquait forcément une chute. Cette technique de combat, pour dire causer du tort, a donné tailler des croupières. Plus tard, quand le cheval a été remplacé par d'autres engins, on a inventé une autre expression. Mettre des bâtons dans les roues. Le principe est le même. Allez, ah oui, terminons sur une phrase à méditer. Elle est de l'historien originaire du Havre, André Siegfried. Vous voulez nuire à quelqu'un ? N'en dites pas de mal, dites-en trop de bien. C'est pas faux.
Ouh, oui, ça c'est même très vrai. On vous retrouve à 16h tout à l'heure pour Historiquement Votre, Stéphane.
Oui, on réunit le roi du vaudeville, Georges Feydeau, le courtisan et écrivain Roger de Bussy-Rabutin, à la plume acerbe, et l'acteur et humoriste britannique Ricky Gervais. Leur point commun, comme dirait l'autre, ils sont caustiques, de véritables as de la pique.
À tout à l'heure, 16h. Laurent Cabrol est avec nous. Caustique, je sais pas, Laurent Cabrol, c'est l'heure de la météo.
Non, mais moi je taille des coupières. Aux prévisions, parce que faire rentrer la prévision de la France en 40 secondes, c'est difficile. Alors, sur les côtes atlantiques en ce moment, ce sont des orages, des petites pluies qui se manifestent. Elles vont pénétrer dans les terres en Bretagne, Vendée, Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées. Sur la Normandie, la Picardie, sur Paris, la Vallée de la Loire, le Berry, le Limousin, la Bourgogne, un temps d'averse. Des averses qui seront assez discrètes quand même sur la capitale, un peu plus qu'ailleurs. Lorraine-Alsace-Franche-Comté dans les Alpes, de belles éclaircies. Région lyonnaise, de la pluie ce soir. Du soleil sur la Provence, la Côte d'Azur. Les températures entre 16 et 20 degrés. 16 à Caen, 18 à Paris et 20 degrés à Marseille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Lénaïque Monnier est avec nous. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
C'est une personnalité très particulière. Il avait un comportement depuis quelque temps assez inquiétant, de type paranoïaque.
Toujours aucune trace de cet homme qui a tué deux de ses collègues hier dans les Cévennes. Les gendarmes l'ont cherché toute la nuit. Nous retrouvons Stéphane Frangy sur place dès le début de ce journal. La vaccination s'ouvre à tous les majeurs à partir de ce matin. Reportage à Douai où les jeunes se ruent sur les vaccinodromes. Et puis le château du gang des Lyonnais est à vendre. On part faire la visite à la fin de cette édition.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Le général Emmanuel de Richouf, signataire de la première tribune de militaires dans Valeurs Actuelles, soutien de la seconde, le tête-à-tête Europe Matin, c'est à 7h40. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Il a suffi d'une simple affiche pour une élection locale et voilà le parti du président à nouveau secoué par ses contradictions sur le voile.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit Daniel Saada, ambassadeur d'Israël en France. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous partons donc dans les Cévennes ce matin parce que la traque a duré toute la nuit pour quelques 200 gendarmes. Ils tentent depuis hier soir de localiser l'homme qui a abattu son patron et l'un de ses collègues dans la Syrie où il travaillait. Stéphane Frangy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour Europe 1. A-t-on un début de piste sur l'endroit où pourrait se trouver cet homme ?
Non, c'est très compliqué cette traque hein, qui continue. On rappelle que le GIGN est aussi appelé en renfort. Le plan Épervier qui a déclenché des rondes d'hélicoptères hein, qui ont eu lieu jusqu'à tard hier soir. Le périmètre est délimité dans cette région pour tenter de le cerner. Les 259 habitants des Plantiers ont été priés de rester confinés chez eux. L'accès au village est lui barré par la gendarmerie. Ce matin encore, l'homme recherché, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est âgé de 29 ans. Il a une vie familiale, il est père d'un enfant en bas âge. Son profil est décrit comme paranoïaque, il multipliait les conflits et les dépôts de plaintes, notamment contre l'ancien maire de cette commune. Mais ce qui inquiète surtout les autorités, c'est qu'il est un tireur confirmé. Il est membre d'un club de tir sportif, légalement détenteur de plusieurs armes, même si on ne sait pas précisément avec quel arsenal il s'est aventuré dans les bois tout autour de nous. Il est également chasseur et ce sont de vastes forêts, de zones escarpées qu'il connaît très bien dans ce parc naturel des Cévennes. Autant de données qui rendent cette traque tellement périlleuse.
Merci Stéphane Frangier. Direct des Cévennes ce matin pour Europe 1. La cour d'assises de Savoie a reconnu Nordal-Lelandais coupable du meurtre d'Arthur Noyer et l'a condamné hier soir à 20 ans de prison. L'avocate générale avait requis 30 ans. Les délibérations ont duré 7 heures et l'avocat de Lelandais ne fera pas appel.
À la une de l'actualité également ce matin, le coup d'envoi de la vaccination pour tous les majeurs qui le souhaitent.
Dès ce matin, les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner en fonction des rendez-vous restés libres du jour pour le lendemain. À Douai, au vaccinodrome de Gaillant-Expo, des créneaux sont ouverts déjà depuis le début de la semaine à tous les majeurs. Et il y a de l'engouement chez les jeunes. Reportage de Maximilien Carlier.
Voilà, c'est fait, première dose.
Quentin, 20 ans, vient tout juste de se faire piquer. Ce qu'il veut surtout, c'est retrouver une vie comme avant.
Je me suis dit, ouais, je vais me faire vacciner pour mes grands-parents. Ça fait longtemps que je les ai pas vus en plus. Et juste sortir aussi, faire un peu ce qu'on veut, dessiner, des foot, sortir entre potes.
Assister à des concerts, voyager cet été. C'est pour ces raisons d'ailleurs que Théophile, 26 ans, a décidé de venir. Il a même changé d'opinion sur le vaccin.
Il y a encore quelques mois, vous m'auriez posé la question, je pense que ça aurait été plus négatif. Mais là, maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, les jeunes vont notamment se bouger.
Et c'est clairement visible ici. Ils arrivent par vagues, ils ont 20, 30 ans maximum. Il était temps pour Salia Grévin, chef du vaccinodrome de Douai.
Moi, ça fait depuis janvier que je dis non aux jeunes de mon territoire qui viennent tous les jours, depuis janvier, s'asseoir à 18h pour voir s'il reste des doses. C'est fini.
C'est fini, vaccination ouverte à tous ici. Et s'il y a un fort engouement chez les jeunes, selon plusieurs médecins, c'est parce qu'ils ont été trop longtemps frustrés de n'avoir pas pu être vaccinés. Douai, Maximilien Carlier, Europe 1.
Le pass sanitaire, lui, est sur les rails, hein, mais la nuit a été agitée à l'Assemblée nationale. L'exécutif a dû demander une seconde délibération nocturne après le rejet du texte par ses alliés du Modem.
Oui, pour obtenir le vote des députés frondeurs du centre, le gouvernement a accepté d'écourter la période de transition pendant laquelle il peut décider des restrictions de liberté face à la pandémie. Elle courra donc du 2 juin à fin septembre plutôt que fin octobre. Par ailleurs, ces jeunes vaccinés dont on vient de parler devraient bien pouvoir aller danser, car le dossier des discothèques a un peu avancé. Comme nous l'explique David Corsero du Modem.
Effectivement, il y a eu une avancée, puisque aujourd'hui, il y a un engagement qui a été pris d'avoir une clause de revoyure fin juin, avec une décision qui sera prise. Donc nous, on fait confiance au gouvernement. C'est une grande avancée, c'est un pas en avant, et on est très content de ça. Le débat a été ouvert, et en tout cas, les Français ont entendu que le groupe Modem se souciait du fait que les discothèques devaient rouvrir et donner une perspective et un peu d'espoir à la jeunesse. On n'a jamais été inquiet, vous savez, on fait partie d'un groupe et d'une famille. Quand on est dans une famille, on discute, on se donne les mots, et voilà. Et je pense qu'une nouvelle fois, on a fait voir que la famille Modem était au rendez-vous et à l'écoute des Français.
Le député Modem David Corsero avec Arnaud de La Fontaine.
L'actualité à l'étranger, c'est une nouvelle nuit de violence au Proche-Orient.
L'armée israélienne a mené une nouvelle série de frappes cette nuit sur la bande de Gaza, frappant notamment les maisons de responsables du Hamas. Un Palestinien a été tué en Cisjordanie et le djihad islamique a lui annoncé avoir tiré cette nuit 1000 roquettes en direction d'Israël.
Et vous l'avez noté, l'ambassadeur d'Israël en France est l'invité de Sonia Mabrouk après ce journal. Une nouvelle nuit, oui, sous haute tension. L'escalade, les réponses de l'ambassadeur au micro de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15. Retour en France à présent. Et on s'intéresse à un pan de l'économie française en péril avec cette question. Va-t-on manquer de riz ?
Eh bien, c'est le cri d'alarme ce matin sur Europe 1 des producteurs de riz de Camargue. La production française, cette année, sera à son plus bas niveau depuis 30 ans en cause des normes sanitaires de plus en plus contraignantes qui découragent les producteurs. Les explications de Maud Descamps.
Des 30 000 hectares de rizières camarguaises d'après-guerre, il n'en reste qu'un tiers, cultivé par 170 riziculteurs. Cédric Santucci est l'un d'entre eux. Cette année, il cultive à regret du blé dur.
Depuis plusieurs années, on fait face à un retrait de produits phytosanitaires en France. Aujourd'hui, c'est très compliqué de désherber correctement nos rizières. Le fait est que si les parcelles sont envahies de mauvaises herbes, ben, les rendements chutent de l'ordre de 3-4 tonnes. La culture du riz n'est plus rentable.
L'an dernier, 80 000 tonnes de riz camargué ont été produites. Cette année, ce sera 30% de moins. Bertrand Mazel, président du syndicat des riziculteurs français, s'inquiète aussi de l'impact sur le paysage.
On était habitué à avoir un paysage où il y avait bien sûr de l'eau en permanence avec toute la faune et la flore qui s'y attachent. Aujourd'hui, malheureusement, on voit plutôt des champs qui sont plastifiés aussi parce qu'on est obligé d'utiliser ces méthodes-là pour avoir des melons de plus en plus tôt.
Contacté par Europe 1, le ministère de l'Agriculture assure qu'il ne laissera pas la filière du riz français disparaître. 3 dérogations de produits phytosanitaires sont actuellement à l'étude.
Les précisions de Maud Descamps du service économie pour Europe 1.
Direction l'Ain à présent. Un château de la Renaissance est à vendre. Et ce n'est pas n'importe lequel.
Vous vous souvenez
sans doute du gang des Lyonnais, ces braqueurs des années 70, oui.
Oui, ils avaient acquis ce bien où ils se tenaient de vrais festins. Et aujourd'hui, eh bien, la bâtisse se cherche un nouveau propriétaire. Reportage à Farin dans l'Ain avec Jean-Luc Boujon.
Le château de Fléchères est un superbe édifice construit en 1605 sous Henri IV. C'est un joyau de la Renaissance composé d'une trentaine de pièces ornées de peintures d'époque, explique son propriétaire Marc Simonet Langlard.
Alors ici, nous sommes dans la salle représentant la figure de la fortune avec sa corne d'abondance, d'où sortent des pièces d'or. Et c'est un décor tout à fait étonnant qui n'a pas d'équivalent.
Plus récemment, dans les années 70, le château a été la propriété d'un des chefs du gang des Lyonnais, la célèbre bande de braqueurs qui sévissait à l'époque.
Il y a organisé quelques fêtes très sulfureuses avec des prostituées.
Donc des orgies qui ont été organisées là au moment du gang des Lyonnais.
Oui, tout à fait. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que ces associés se sont dit qu'il était en train de risquer de les compromettre eux-mêmes.
Aujourd'hui, le château complètement restauré est à vendre, prix 12 millions d'euros. Mais l'argent n'est pas le seul critère.
On pense trouver un acquéreur qui ait le goût de ce genre de lieu et qui ait envie de le faire vivre en respectant le bâtiment.
D'ailleurs, plusieurs offres de promoteurs ainsi qu'une autre émanant d'un investisseur saoudien ont déjà été refusées. Farins, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
D'un mot, le football avec le Paris Saint-Germain qui se déplace ce soir à Montpellier, demi-finale de Coupe de France. Cette compétition que le club parisien a remportée 13 fois, c'est l'objectif de cette fin de saison, puisque le titre de champion de France s'est éloigné et que la Ligue des Champions, vous le savez, s'est terminée.
Ah bon ?
L'autre demi se jouera demain entre le petit Rémy et le gros Monaco.
13 fois, vous dites 13 fois. Ça porte bonheur ou malheur pour vous, 13 fois ?
Ah, je suis né à 13, donc je veux dire bonheur.
Ah oui, on est le 13 demain aussi. On va prendre, voilà. Merci beaucoup, Lénaïque Monnier. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Les réponses de l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15, je viens de vous le dire. Mais dans un instant, des réponses aussi, celles du général de Richouf, signataire de la première tribune des militaires dans Valeurs Actuelles, soutien de la seconde. Quelles sont les motivations de ces militaires? C'est le tête-à-tête Europe Matin. Ce sera juste après La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, ce matin, place au zen, place à la détente, place à l'ASMR.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h41 et sur Europe 1, vous le savez, on a rendez-vous avec le poil à gratter de cette matinale. Bertrand Chameroy, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, je vous invite à vivre une expérience. Notre collègue Christophe Ondelat propose aujourd'hui exceptionnellement en podcast, et il est déjà disponible, un numéro de Ondelat chuchote. Une version ASMR de Ondelat raconte, consacré à l'histoire de cet homme qui a vécu pendant 7 ans dans une forêt avec des chevreuils. Un récit entièrement susurré. Inspiré par Christophe Ondelat, j'ai décidé moi aussi de vous raconter l'actualité du jour en chuchotant, de chatouiller vos petites oreilles avec les infos pour les rendre plus ouatées, plus douillettes. Attention, c'est parti, fermez les yeux, sauf si vous êtes en voiture. Hein. Détendez-vous, vous êtes dans une bulle de quiétude.
Nous sommes le mercredi 12 mai 2021. Cela fait 207 jours que nous sommes sous couvre-feu. 207. Depuis le 17 octobre 2020. Le débat sur le port du voile est de retour dans les médias et sur toutes les chaînes info. Ça faisait longtemps, ça commençait à manquer. Dans une semaine pile, vous pourrez retourner au cinéma et en terrasse. La météo prévoit de la pluie, 10 degrés et des rafales de vent allant jusqu'à 50 km/h. Idéal pour les apéros à l'extérieur. Vous avez fait votre déclaration d'impôt. Il est encore temps de le faire. Sinon, en PACA pour les régionales. Selon un sondage, le Rassemblement National arriverait en temps.
Ah ! Stop !
Ah non, c'est insupportable. L'actu est plombante, l'actu est plombante, et la chuchotée, ça change rien, c'est même pire. On n'en peut plus de cette ambiance, non ? Ah, seule bonne nouvelle, mais qui ne nous concerne pas visiblement. La buvette de l'Assemblée nationale a rouvert. C'était hier en pleine séance, alors qu'il alertait sur la situation dramatique des boîtes de nuit. Jean Lassalle a voulu pointer certaines incohérences, puis il a dévié. Jean Lassalle a fait du Jean Lassalle. Je précise que c'est pas Nicolas Canteloup que vous allez entendre, mais le vrai Jean Lassalle.
Les lieux d'échangisme ou de libre-échangisme sont restés ouverts durant tout le confinement. De très nombreux de nos collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents, et je ne compte même pas les ministres.
Aucun horizon pour les boîtes de nuit, mais Jean Lassalle balance tranquillou que certains députés et ministres sont amateurs de boîtes libertines. Une semaine après la sortie d'un joint en pleine séance, voilà que ça parle donc boîte à cul à l'Assemblée. Plus ça va, plus les séances à l'hémicycle ressemblent au sommaire d'un magazine d'M6. Hein. Drogue, échangisme, la face cachée du Palais Bourbon, c'est dimanche, dans Enquête Exclusive.
Allez, bonne journée à tous.
La touche âme, tous les matins. Ne manquez pas le podcast de Christophe Ondelat en ASMR, bien sûr. La touche âme tous les matins, 7h40 sur Europe 1. Merci Bertrand. À tout à l'heure, 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média.
Europe Matin, le 7-9.
Mon invité, Emmanuel de Richouf de Manin, général, 73 ans, dont 36 dans l'armée. L'Afrique, l'Irak, la Bosnie, un homme de terrain au pluriel. Il est aussi reconnu ces dernières années pour son travail, son engagement en banlieue. Mais il y a un mais. C'est un de ces militaires que certains ont qualifié de factieux après une première tribune dans Valeurs Actuelles, alors qu'une deuxième, d'anonyme, revendiquée militaire d'active, est publiée cette semaine. Ce matin sur Europe 1, on va essayer de comprendre les motivations de ces militaires et ce que ça nous dit aussi de la séquence politique à laquelle nous assistons.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Général de Richouf, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, presque d'une façon générale, vous êtes extrêmement pessimiste. À vous lire, notre pays est gris, menacé, assombri. Et sauf thérapie choc, sauf remède à la dure, on est foutu.
Non, c'est pas ce qu'a dit la tribune. Hein. Je vous rappellerai quand même, ce que je dis souvent à des gens, il faut lire, il faut savoir lire. La tribune, simplement, faisait remarquer que le pays est engagé sur une voie, j'allais dire, de violence courante, permanente, depuis maintenant un certain nombre d'années, et que si nous ne faisons pas ce qu'il faut, si l'État ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, à terme, nous risquons d'avoir, une police et une gendarmerie dépassées par les événements, et faire appel et que le gouvernement, conformément à la loi, fasse appel aux armées, qui, à leur corps défendant, seraient contraintes d'aller rétablir l'ordre, c'est tout.
Alors, on va les lire ensemble, c'est ce qu'on va faire, on va les lire ensemble, ces deux tribunes. Il y a des mots qui sont envoyés, il y a des postures, des récupérations de partout, mais prenons la question à l'endroit. Quand il est écrit « Le travail est colossal, ne perdez pas de temps, nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. » Le travail est colossal. Quel travail, quelle politique prendrait en considération la sauvegarde de la nation concrètement ?
Eh bien écoutez, le premier travail qu'il faudrait faire, me semble-t-il, je parle de ce que je sais, c'est un travail pour l'intégration. C'est-à-dire que nos populations récemment arrivées sur le territoire national, depuis même deux générations, ne sont pas intégrées. Elles ne sont pas intégrées à la population, elles ne sont pas intégrées au monde du travail, elles ne sont pas intégrées socialement. Et bien évidemment, quand vous n'êtes pas intégré ou que l'insertion a raté, vous êtes quoi ? Vous êtes marginalisé. Quand vous êtes marginalisé, vous n'êtes pas content. Quand vous n'êtes pas content, vous vous révoltez. Et quand vous vous révoltez, vous prenez des voies qui ne sont pas forcément celles de la loi. Et je crois que, véritablement, au-delà des annonces fracassantes qui ont été faites depuis quelques jours concernant, le tout répressif, ou du moins une action répressive dans nos quartiers, je pense que si cette action répressive ne s'accompagne pas d'un volet social puissant, je dis bien puissant, nous n'arriverons à rien. Voilà.
Travail d'intégration, volet social, voilà, et c'est pour ça que je veux qu'on entre dans le détail de la tribune. Agissez, mesdames et messieurs, dit cette deuxième tribune cette semaine. Alors, il y a le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, qui promettait des sanctions après la première tribune. La publication d'une seconde ou d'une deuxième, on verra s'il y en a une autre par la suite. C'est de la provocation, c'est de la rébellion.
Non, c'est pas. Je veux dire, il faut arrêter de considérer les militaires comme des rebelles et je ne sais pas quel encore qualificatif on emploie. Les militaires dont je fais partie, sont des sentinelles avancées. On dit attention, danger. Voilà, c'est tout.
Alors vous dites, attendez sur les mots parce que dans cette deuxième tribune, la hiérarchie, donc le général Lecointre, chef des armées aussi, Emmanuel Macron, peut-être, ce sont les mots sont forts, des lâches, des fourbes, des pervers.
Oui, les mots sont très très fort, d'autant que tout le monde a dit que c'est une tribune. On ne savait pas d'ailleurs, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Je remarque simplement que hier, dans une émission télévisée connue le matin, il y a un officier qui est apparu, qui avait signé la pétition, du moins la lettre ouverte, et qui disait ce qu'il en était. Et c'était, je vous conseille d'aller le voir, parce que c'est assez, j'allais dire, parlant. Cet officier donc fait partie des gens qui ont écrit cette deuxième lettre.
Certes, elle est contestée, mais qu'on soit bien clair, je prenais les mots lâches pour ce qui est du président de la République ou du chef d'état-major des armées. Revenons à la première tribune, celle que vous avez co-signée, vous listez les causes du délitement de notre société. Et la première cause, c'est l'antiracisme. L'islamisme et les hordes de banlieue, vous les citez, les affrontements avec les forces de l'ordre, vous les citez, mais d'abord, l'antiracisme est la première cause de délitement de notre société ?
Écoutez, moi je vous dis, je vais pas polémiquer. 107 ans, ça fait 15 jours qu'on interroge sur ce courrier. Et ce courrier, je l'ai signé, cette lettre, je l'ai signée parce que je vous dis, je pense que dans les banlieues, il y a lieu de faire quelque chose. Donc moi, je suis quelqu'un, je pense, de suffisamment réfléchi, qui a l'expérience d'un certain nombre d'événements ici ou là, et qui peut apporter son contribution justement à cette évolution.
Croyez-moi, voilà. Général, je cherche pas à polémiquer. Vraiment, je cherche à prendre le texte en lui-même. Mais vous comprenez que rapidement, avec le vocabulaire qui est utilisé dans ces tribunes, on vous accuse, je dis on vous accuse de faire le jeu de l'extrême droite. Et vous répondez à cette question facilement, je le sais. Mais si j'ai voulu vous inviter ce matin, c'est qu'on a regardé votre profil, aide de camp du Premier ministre Pierre Mauroy, ce surnom de général des banlieues, vous les avez déjà cités, les quartiers, je vous cite, cette guerre de retard contre les ghettos de la périphérie. Alors on va le dire autrement, vous êtes de gauche, général ?
Moi, je suis ni de gauche ni de droite. Je suis français d'abord, et compte tenu de mon passé, compte tenu de 5 siècles, ma famille est arrivée en France il y a 5 siècles, et je dois dire que j'ai la France qui coule dans mes veines. Alors moi, je suis pas de droite ou de gauche. Je regrette simplement que chaque fois qu'on dit quelque chose, chaque fois que l'on fait quelque chose, on vous taxe d'être de droite ou de gauche. Très honnêtement, je ne sais pas ce que c'est.
Vous ne le vouliez peut-être pas, mais c'est un débat qui est politique. Et puis vous répétez à qui veut l'entendre que vous êtes apolitique, hein, mais de Pierre Mauroy à votre nom sur les listes municipales investies un coup par le FN, puis le RN ou encore Debout la France. Et puis dans ces tribunes ce matin, vous ne faites que de la politique. C'est pas sale la politique, mais c'est de la politique.
Non mais je sais bien que quand on va acheter une baguette de pain, vous savez, si vous achetez une baguette de pain et que vous prenez une baguette, j'allais dire traditionnelle, ou une baguette normale, on vous accusera de faire de la politique, parce que la baguette traditionnelle, on vous dira, vous êtes...
Oui mais vous me faites de la langue de bois, vous me faites de la langue de bois magistrale, général. Le centre de recherche politique de Sciences Po révèle une étude sur le vote des policiers et militaires. 60% prévoient de voter pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. C'est votre cas ?
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous
oui
voulez
ou
que je dise ?
Bah oui ou non, en fait.
Bah non, c'est pas mon cas.
Très bien. Est-ce que vous comprenez ?
Non. Mais vous accélérez toujours sur ce qui vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je vais voter, pour qui je vais voter demain. Je ne sais pas d'abord qui va être candidat demain. Tout peut changer en un an, je peux vous l'assurer. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est mon pays. Alors mon pays, il est en grande difficulté en ce moment. Il y a des quartiers qui ont fait sécession. Quand on dit que la République est une et indivisible, ne serait-ce que quand il y a un seul quartier qui fait des sécessions, eh bien on se retrousser les manches pour faire quelque chose. Voilà ce que je veux dire.
Vous utilisez les mots guerre civile, guérilla urbaine dans des interviews aussi, de la menace de guerre civile et de guérilla urbaine, on va être précis. Ouais. Non mais vraiment j'essaie d'être précis sur le texte. Si on parle d'Éric Masson, ce policier tué à Avignon, il est mort. Et on peut parler de la réponse de l'exécutif, hein, dans le détail si vous le souhaitez. Mais s'il est mort d'une guerre, et c'est sans doute le cas, il est mort d'une guerre contre la drogue, les mafias, les trafiquants, c'est pas un pan de la société qui se retourne, qui fait sécession.
Moi, j'appelle ça une guérilla, je suis désolé, j'appelle ça une guérilla urbaine. Quand tous les jours ou plusieurs fois par semaine, vous avez des tirs à la Kalachnikov qui sont des armes de guerre dans les quartiers Montpellier ou à Nîmes, en toute impunité, quand vous avez ce policier qui se fait lâchement assassiner par une arme de poing, qui est quand même une arme de poing, c'est quand même pas n'importe quoi, quand vous avez une autre femme qui se fait égorger, policière qui se fait égorger à l'entrée de son établissement, quand vous avez un professeur de français qui se fait décapiter, moi j'appelle, si vous voulez, déjà on est en guérilla urbaine. Alors que vous le voulez ou non, c'est peut-être, on est habitué à tous les jours à voir sur nos chaînes, sur nos radios, finalement, on nous dit tout ça, mais on s'habitue, vous voyez ce que je veux dire? Ben moi, je ne m'habitue pas. Je suis désolé, je ne m'habitue pas. Et tant que je verrai ça, ben vous me verrez en train de me hérisser en tant que Français.
Voilà. Et vous vous hérissez en direct, ce matin, Général Emmanuel de Richouf, je vous remercie. Des questions à partir du texte, hein. On les a lues, évidemment, ces tribunes, avant de vous recevoir. Et on vous a donné la parole hors anonymat, Général Emmanuel de Richouf. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Merci,
7h52 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Europe Matin,
le 7-9.
Mathieu Béliard.
7h54 sur Europe 1, on retrouve Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
L'édito politique. Et, ah oui, ce débat. La présence d'une femme voilée sur une affiche électorale de La République En Marche à Montpellier qui continue de faire des remous.
Mais ce qu'il y a de formidable avec La République En Marche, c'est que si la politique est une science inexacte, ce parti, lui, est totalement prévisible. Dès qu'il s'agit de laïcité et de voile, il tombe dans tous les panneaux, se prend les pieds dans toutes les polémiques. Dernière en date, cette empoignade autour de la candidature d'une femme voilée comme suppléante aux élections départementales de l'Hérault. Suppléante dans un canton. Il fallait creuser profond pour la déterrer, cette controverse. Et pourtant, c'est fait.
Oui, c'est fait. Stanislas Guérini, le délégué général du parti, a menacé de retirer son soutien si la photo n'est pas changée.
C'est ça, sans que l'on comprenne bien si le problème c'est le voile ou la photo, ou les deux. Ce qui est clair, en revanche, c'est que le parti du président n'a pas mis longtemps à se déchirer. Les députés du coin ont désapprouvé l'affiche. Plusieurs de leurs collègues du même groupe parlementaire ont au contraire critiqué leur parti et pris la prise de position de Stanislas Guérini. Et circonstance aggravante, celui-ci avait fixé la ligne du parti dans une réponse à un tacle de Jordan Bardella, comme si, sur ces sujets hautement inflammables, la majorité suivait un ordre du jour fixé par le Rassemblement national. Malaise.
Alors au fait, le problème pour En Marche, c'est le voile ou la photo ?
Ça peut être ni l'un ni l'autre, ou au contraire les deux. Bon, je m'explique, le port du voile dans un espace public est libre et être coiffé d'un voile sur une affiche électorale est parfaitement légal. Sauf que cet accessoire vestimentaire dit quelque chose de ce que vous êtes, de ce que vous proposez. Sur une affiche électorale, il porte évidemment un message. Si vous militez pour un parti à l'aise avec cette vision de la société, bon, cette affiche ira de soi. Mais La République En Marche n'est pas du tout sur cette ligne. Cette affiche, la photo et le voile ont une connotation communautariste. C'était donc une erreur politique. Et Stanislas Guérini a eu raison de s'y opposer.
Alors comment est-ce que ça peut se régler en interne, je veux dire dans le parti ?
Eh bien, ça ne se réglera pas, parce que sur ce sujet, c'est de l'ambiguïté qui règne. Les ailes droite et gauche de ce mouvement sont totalement divisées et rien n'a été fait pour les rapprocher. Les occasions n'ont pourtant pas moqué. Les polémiques passées auraient pu être autant de chances de purger ce conflit, mais non. Au contraire, Emmanuel Macron affirme que ce n'est pas son sujet. Quant au gouvernement, il y a quelques semaines, il a eu l'occasion de se prononcer avec sa loi sur les séparatismes. Raté, le texte a soigneusement évité de parler du voile. En somme, ces choses-là nous dépassent, feignons de ne pas les avoir remarquées. Sur la laïcité, La République En Marche, ce n'est même pas une boussole qui indique le Sud, c'est une boussole qui n'indique rien.
Votre édito politique, c'est tous les matins à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Daniel Saada, ambassadeur d'Israël en France. Et c'est Julien Courbet qui est venu nous dire un mot. Bonjour Julien.
Oui, bonjour mon cher collègue, cher Mathieu Béliard. Bonjour à Nicolas Bétou. Je m'avance, mais j'imagine qu'en recevant l'ambassadeur d'Israël, vous allez parler des tensions à Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens. Sachez, cher Mathieu, que je suis un peu spécialiste des conflits de voisinage. On a tout essayé pour résoudre ce conflit qui a trop duré, sauf l'utilisation du grand Julien Courbet, le zéro de la radio que je représente, modestement. Il y a 15 jours, vous souvenez tous vivre là-bas en Israël, car les bars rouvraient à Tel Aviv. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins envie. Et encore moins du côté palestinien. Allez, petite parenthèse, puisqu'on évoque les conflits de voisinage, je voudrais, vous le savez, présenter les excuses d'RTL auprès d'Europe 1. Je sais que Mathieu Béliard est en sous-sol, en garage même,
qu'il est bête.
À cause d'une guerre bactériologique lancée par Yves Calvi. Il était en service commandé. Navré, Mathieu.
Non, en garage, mais au soleil. Je vois là le jour qui s'est levé, il fait beau déjà ici. Laurent Cabrol est avec nous pour la météo. Merci Nicolas, on vous retrouve à 8h45 pour la revue de presse.
Vous le disiez, attendez, moi je n'ai pas fini. Mais vous le disiez,
ah non, le c'est ce Laurent Cabrol.
Oui, pardonnez, plus long, parce que moi j'aime bien intervenir. Parce que
je me suis fait avoir, pour de vrai.
On met sous le couvercle, sous l'étouffoir. Vous le disiez, fin du port du masque en Israël. Moi je conseille le port du casque des deux côtés de la frontière. Je vous conseille souvent le PPP, le parapluie par précaution. C'est moche d'avoir à conseiller le BPP, le bunker par précaution. On balance des roquettes d'un côté, on balance des missiles, vous l'avez vu, de l'autre, alors qu'il n'y a qu'une chose à balancer, à mon sens, c'est une chanson de Bob Marley.
Nicolas Canteloup, formidable Nicolas Canteloup, 8h45, la revue de presque. Et bien sûr, vous restez bien sur Europe 1. Après le journal de 8h, Sonia Mabrouk reçoit l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada. Il est là, le vrai Laurent Cabrol, je me suis fait avoir.
Oui. C'est la casquette par précaution qu'il faut prendre aujourd'hui parce qu'il pleut. Et il pleuvra sur le littoral atlantique, déjà la pluie est là. Sur la Normandie, la région parisienne, ce sont des averses. La Pays Basque et la Bourgogne aussi des averses. Et puis, en fait, nous aurons de belles éclaircies sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, sur les Alpes, sur la région lyonnaise. Et du soleil sur la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur. Ce matin, nous avons eu presque des gelées, oui, des gelées à Mende, à Rodez, 0 à 1 degré. Et oui, cet après-midi, il ne fera que 16 à 20 degrés. Encore quelques secondes, par pitié, laissez-moi vous dire que ce congé de l'Ascension, malheureusement, ne sera pas brillant, mais il ne pleuvra pas en permanence pendant tous les jours, pendant les 4 jours. Non, il pleuvra soit à droite, soit à gauche, c'est-à-dire soit dans l'est, soit à l'ouest, mais nous aurons de la pluie quand même, et nous aurons surtout une bonne fraîcheur, une bonne humidité qui sera là. Ce sera la dominante de ce congé de l'Ascension.
Il y a une pluie de droite, une pluie de gauche, à part... Non, on va pas rentrer dans la politique à nouveau. Merci Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, on est ensemble et on écoute le monde changer.